Nous avons le sentiment qu'on a voulu dévaster pour asseoir une culture venue d'ailleurs. Ma conception de mon entrée dans la France est une conception d'égalité, une conception de joie que je n'ai pas envie de voir dégrader.
Épisode numéro 9. Partir ou rester.
Je pense qu'on est des guerriers de la paix et on arrive à l'indépendance par la voie pacifique et la voie démocratique.
Voyage en terre d'outre-mer. Ces oubliés de la République. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Kanak de Nouvelle-Calédonie, Mahorais de Mayotte, Amérindiens de Guyane, insulaires de Polynésie, ces citoyens français ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. Cet été, ils s'invitent sur le devant de la scène avec leur histoire, leur mode de vie, leurs croyances et leur altérité. C'est la voix des peuples autochtones. La France ne l'a pas entendue pendant des siècles, alors peut-être est-il temps de l'écouter. Aujourd'hui, direction Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. En 2018, la Nouvelle-Calédonie doit se prononcer par référendum sur son indépendance. Cela fait près de 30 ans, depuis les accords de Matignon, que les Kanaks s'y préparent. Il est loin le temps où ils étaient présentés comme des bêtes de foire à Paris, en 1931. Après des décennies de lutte, ils ont ouvert la voie à un processus inédit de décolonisation au sein de la République française. À Mayotte, dans l'océan Indien, les Mahorais se sont battus pendant plus de 150 ans pour rester français. Mais depuis 2011, le dernier né des départements a le vague à l'âme. Un taux de chômage à plus de 36%, un système éducatif en panne, une immigration clandestine de plus de 50% et une forte délinquance. Aujourd'hui, les Mahorais s'interrogent sur le prix à payer de la départementalisation. Deux peuples, deux continents et un même voyage, rester ou partir de la République.
Carvins et monsieur le directeur, nous avons bel et bien combattu, portant toujours notre terre dans nos deux poings, bien serrés près du cœur, l'espoir de voir un jour la liberté, l'égalité, la fraternité s'asseoir sur notre terre. 13 octobre 1969, avant le coup fatal, nous avons chanté la France. Nous avons dit oui à la République. Oui, nous avons dit nous voulons rester français pour être libres. Si on ne comprend pas la parole de ces femmes, on ne peut pas comprendre cette île. Les femmes ont voulu que Mayotte reste française pour être libre.
Et c'est avec humour et imagination qu'elles sont passées à l'offensive dès 1966. À cette époque, Mayotte fait encore partie de l'archipel des Comores sous contrôle de la France. Le 2 août, Zenam Déré et ses sœurs lancent leur action commando, chatouiller jusqu'à l'évanouissement les fonctionnaires et ministres comoriens et les faire fuir. La chatouille va devenir une arme pour que Mayotte ne soit pas intégrée aux Comores et reste française. Un mouvement politique qui se soldera en 1974 par le rejet de l'indépendance et en 2011 par la départementalisation. Figure emblématique de Mayotte française, Mouchoula. Dans sa chambre, la vieille dame trône sur son lit, entourée de ses photographies et de ses souvenirs. C'est ici qu'elle reçoit ses héritiers ou ses admirateurs, comme l'écrivain Alain Martial Kamal.
On était tout petit, on entendait « Mouchoula est parti à la barge, Mouchoula ». C'est une héroïne. Dans tous les foyers, on les racontait. Elles sont là pour le respect des Maoris, pour l'égalité, pour la liberté. Dans ce qu'elles racontent, ce qui est très important à retenir, c'est toujours cet attachement au drapeau. Même aujourd'hui encore. Et elle dit, nous, on est restés français, on a poursuivi notre combat et aujourd'hui, notre île, elle est ce qu'elle est. Donc, elles ont dit non, c'est-à-dire non à l'indépendance. Et que tu disais non, on te donnait un coup de matraque, tu te trouvais par terre, tu te relevais pour dire non encore.
Non, Maoré, Maoré, c'est français. Ah. Eh bien alors.
Maoré, Maoré, c'est français.
Eh bien alors, c'est quoi le problème?
C'est comme ça, Dunian, hein?
J'étais là vibré pendant ces 48 ans, dans le mouvement de ce combat. Et ce que je retiens, c'est cet attachement, surtout, à des valeurs qui sont les valeurs de la République française.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent le combat ?
Aujourd'hui, c'est comme si cette nouvelle génération était soumise. Beaucoup d'enfants sont en difficulté. Et ils crient et ils disent réveillez-vous. Il faut être vigilant toujours, il faut s'engager.
Alors quand vous entendez, vous qui êtes un jeune chatouilleur, quand vous l'entendez raconter tous ces récits,
C'est très émouvant. Moi, je suis vraiment dans l'histoire. Je suis plongé dans sa voix. Je revis ça comme si j'y étais. Et vraiment, on gagne en humilité. On sait qu'on a beaucoup à apprendre encore.
Et vous avez décidé quelque part de prendre la relève?
En tout cas, de nous inscrire dans ce combat-là. On ne pourra jamais les remplacer. Et...
vous êtes tout émus.
Ouais, là, c'est...
Vous avez pris une vidéo.
Je garde pour moi, j'essaie de travailler dessus pour essayer d'en tirer le suc.
Vous êtes jeune et vous inscrivez directement dans cette lignée des chatouilleuses dans votre quotidien.
Je n'ai même pas eu à réfléchir, ça allait de soi. Et on a un attachement vraiment immodéré pour cette terre et surtout pour notre France. Quoi. Et il est naturel qu'on défende cette île. Parce que quand elle souffre, c'est nous qui souffrons, c'est notre corps qui est touché quand elle est touchée. Et je suis allé fouiller là où ça fait mal, là où c'est moche, là où c'est laid.
Alors on va vous suivre dans votre travail de chatouilleur.
Voyage en terre d'outre-mer, chez les Maorés de Mayotte, sur France Inter.
Il est poète, polémiste et lanceur d'alerte. Yazido m'a induit à 34 ans. Il dénonce tout ce qui ne va pas, mais aussi l'inaction de l'État et des élus locaux. Il ne veut pas que Mayotte devienne un archipel à la dérive, un département de seconde zone.
On interpelle les autorités, quelles qu'elles soient. Moi, quand je vais poster sur Facebook, c'est pour dire aux gens, voilà la réalité, là, on ne peut pas y échapper. Vous voyez, là, c'est l'anarchie qui s'installe. Il y a 53 favelas à Mayotte. Hein. Et jusqu'alors, à Pamandzi, on était en petite terre, on était épargnés. Mais avec le mouvement récent des décasages, où les Maorés ont essayé de récupérer leurs parcelles, on a eu beaucoup de mouvements, des personnes en situation irrégulière qui sont venues sur petite terre. Donc récemment, je suis venu ici pour essayer de voir ce qui s'y passait, parce que souvent, les collines sont envahies par des taudis. Et à partir de ces taudis-là, on crée des favelas, en fait. Ouais, là, déjà, on commence à s'enfoncer dans toute cette végétation. Là, on ne sait pas où on est vraiment. Cette colline, elle est importante pour les Maorés. C'est un sanctuaire, en fait. Donc, dans nos croyances animistes, c'est ce qu'on appelle un ziara. C'est un lieu de culte. Les personnes qui vont commencer à souiller ce ziara, ils sont en train de souiller notre histoire. C'est pour ça que pour moi, il était important de faire le chemin jusqu'ici pour montrer à tout Mayotte qu'on est en train de piétiner notre histoire et nous, on est là, on ne réagit pas. Vous voyez les épis de maïs qui dépassent. Ce sont des personnes qui sont venues là et qui se sont octroyées des parcelles pour elles et ont planté leur champ. On n'y peut rien puisque c'est le domaine de l'État. Et dans quelques années, ces personnes vont réclamer des terres, et ce qui est normal. Hein, au bout d'un certain temps, l'État ne peut pas expulser comme ça, il faut reloger, enfin bref. Et personne ne réagit, quoi.
Alors là, voilà, il y a des femmes, une famille qui passe et qui vont cultiver leur champ. Voilà.
Là, les personnes qui viennent de passer là, donc avec leur coupe-coupe, machette, qui vont au champ, vont sur le domaine de l'État. Ces personnes n'ont rien à faire là. Je suis en train de parler de droit. On est dans un pays organisé avec des lois. Donc c'est mon pays, c'est les lois de mon pays qui doivent s'appliquer. C'est pas l'anarchie. Et donc vraiment vivre déjà cette francité-là par rapport aux autres îles, ben on est, on se sent un peu orphelin. Enfin, la fille cachée quelque part de la France. Enfin, beaucoup nous ont cachés pendant longtemps, quoi.
En tout cas, pour les Mahorais, elle est française et elle doit le rester.
Pour les Mahorais, pour l'État aussi, la France, puisque Mayotte est dans la Constitution, hein, donc ça ne se discute pas. Voilà. Pour nous, déjà, la base, c'est que nous-mêmes, nous arrivions à impulser le développement de notre territoire nous-mêmes, parce que maintenant, on est dans la France, les outils sont là, est-ce qu'on est capable de travailler avec ? Donc c'est à nous aussi, on doit aussi se regarder dans une glace et dire, bon ben qu'est-ce que j'ai fait pour mon île ? Moi, ce que je fais pour mon île, c'est ça. C'est-à-dire que je suis dans une forme de résistance par rapport à l'anarchie qui veut s'installer. L'anarchie qui s'installe à tous les niveaux, hein. Au niveau de notre patrimoine culturel qui est piétiné de jour en jour, qui n'est pas sauvegardé, et là j'en veux à nos propres élus, hein. Sans ce patrimoine, il n'y a pas de racines, il n'y a rien. C'est ce que vous voyez sur ces collines. Une fois qu'on a tout ravagé, ici on appelle ça les pazzas. Il n'y a plus rien qui retient la terre, après c'est les éboulements. Mais c'est pareil, un peuple sans culture est comme un arbre sans racines. On essaie de replanter, de reboisser. Mais on résiste aussi pour exister. On résiste aussi pour montrer qu'on est. On ne veut pas devenir, on est. Et on a le choix. En créant le malaise, c'est à partir des malaises qu'on crée des ruptures. À partir des ruptures, ben, on crée les plus belles révolutions. Donc à ce moment-là, ben, ça a été pris en compte. On a commencé à s'intéresser à la question. D'ailleurs, aujourd'hui, la municipalité s'est réveillée. J'avais lancé les favelas, c'est l'ancien marché qui était construit en taudis. Enfin, je trouvais ça très anarchique. Eh ben, je suis allé avec ma caméra tous les jours en train de mettre la pression. Et je me rappelle que le jour où on allait détruire cet endroit-là, j'ai reçu un appel de la mairie qui voulait que je sois là parce qu'ils avaient estimé que c'était un combat que j'avais mené. Voilà, bon, ça m'avait plu, mais c'était surtout pour Mayotte, quoi, qu'on le fait. Notre liberté passe par cette résistance. Je pense que quand on est vraiment dans ce combat-là, il faut d'abord déjà savoir écouter la terre, ce qu'elle a à raconter. Alors ça fait poétique comme ça, mais on est tellement dans du mystique, on baigne tellement dans l'animisme ici que vraiment, en prêtant l'oreille, ben, on l'entend respirer. On a l'impression que c'est une terre qui arrive à se défendre parfois toute seule, d'elle-même. C'est-à-dire qu'on a toujours résisté. Aujourd'hui, nos relations avec nos voisins, on a l'impression que c'est né des années 75, mais vous remontez toute notre histoire, c'est pareil.
Est-ce que vous avez justement le sentiment que quelque part, l'État français vous abandonne ?
L'État, hein ? Parce qu'ici, quand on dit l'État français, c'est comme si on était étranger. C'est juste que l'État ne nous comprend peut-être pas et ne connaît pas assez bien le territoire. Certaines personnes dans des hautes fonctions n'ont pas encore pris la mesure de l'enjeu de cette île par rapport à la France. Le fait qu'on soit français tout court, on dirait que ce n'est pas compris. Et donc oui, on en souffre un peu. On en souffre, on est heureux, hein, on est les plus heureux au monde d'être français, mais en même temps on a l'impression qu'il y en a en face qui ne le sont pas, qui ont du mal à comprendre que nous soyons attachés à cet État. Il n'y a pas de dichotomie entre nous et la France, on est la France.
Vous m'avez dit, le matin je me réveille français, je mange français.
Oui, voilà, moi je me réveille français, je rêve français, je bois français.
D'où ça vous vient cet amour si fort pour la France ?
Je sais pas, c'est en nous, c'est inné, je pense. Quiconque se pose un instant et réfléchit se rend compte que nos aînés, ils étaient visionnaires. C'est pas une histoire d'avantage. Le seul avantage vraiment qui nous motive, c'est la liberté. Allez voir nos voisins, on est libre. Je peux parler, je peux vous dire ce que je veux là sans que mon discours soit intercepté, que j'ai des soucis. Et ça, c'est grâce à ce pays qui est mon pays, quoi, en fait. Notre pays, c'est Mayotte, c'est la France, point.
Quelle belle leçon.
Ah.
D'éducation civique et de francitude.
Une des chatueuses m'a dit un jour, il faut que chaque Mahoré ait chez soi le drapeau tricolore.
Vous l'avez, vous ?
Oui.
Toute la période de 2000 à 2011, il y a eu une série de grandes transformations.
Sophie Blanchy, anthropologue.
Qui ont été assez mal expliquées. Sachant déjà que la population a voté comme un seul homme pour le département, sans trop savoir à quelle sauce elle allait être mangée avec ce département. Pourquoi ? Parce que les élus locaux ne se sont pas précipités pour expliquer dans le détail, mais se sont contentés d'assurer que les coutumes seraient conservées. C'est-à-dire le droit local à la fois coutumier et musulman. Mais justement, c'est ce qui allait être le plus perturbé. Ils se rendent compte que ce monde métropolitain dans lequel ils ont voulu rentrer parce qu'il leur semblait protecteur, mais également très riche, Ils se rendent compte que cette richesse vue de loin, mais vue de près, elle est une richesse de participation, de contribution et de redistribution. Mais que bien sûr, ils rentrent dans une économie marchande, alors qu'ils sont encore dans l'économie du don, qui est celle des grands mariages, qui est celle de ces grands rassemblements. Quand on fait un débat, c'est pareil, on est accueilli dans un village, on est logé, on est nourri, on est parce qu'on le fera. C'est de l'échange, c'est du partage, il n'y a pas d'argent qui passe, c'est que du service rendu à l'autre. Et cette économie du don, elle est encore très forte parce qu'elle est porteuse de valeurs.
Elle n'a pas mis ça dans son programme. Nous avons le sentiment qu'on a voulu dévaster pour asseoir une culture venue d'ailleurs. On ne peut pas ici poser totalement la culture de Molière. Pourquoi changer la culture d'ici? Ne pas les poser comme il faut, l'utiliser pour rajouter hein, de la beauté à la France. C'est ça ce que j'aimerais. Mais pas chambouler, casser. Casser pourquoi? On a cassé quoi? La solidarité, l'autorité parentale, le rôle des caddies. On nous casse tout, mais on nous donne quoi à la place? Je pense qu'il faudrait une reprise en compte de ce qui est maoré. On a demandé à être français, mais on a demandé aussi à avoir un apport à amener en France. L'apport, c'est ce que nous avons toujours été. Quand nous entendons dire égalité, fraternité, nous nous disons que la France a à apprendre à Mayotte. Rastami Spello, président de l'association Chimé, Chimaore Méthodique. Une association pour la sauvegarde et la pérennisation des langues de Mayotte, qui sont des langues de France. Je suis père de 5 enfants. J'en ai pas encore assez fait. Je sais que c'est pas très métropolitain, mais c'est foncièrement maoré.
Vous vous battez depuis des années pour maintenir la langue maternelle.
Absolument, parce qu'il s'agit ici d'un patrimoine que nos parents nous ont légué, que nous n'avons pas le droit de laisser disparaître. Parce qu'il s'agit aussi d'un combat pour notre identité même. Les dirigeants français, ou la France tout court, est un pays très conservateur. À ce qui paraît, quelqu'un aurait dit là-bas que pour cette nation unique, il faudrait une langue unique. Mais si chaque langue est une richesse, combien de richesses la France perd? Je ne veux pas participer à la perte de la richesse pour notre nation. Je vais ici, à ma juste mesure, participer à l'enrichissement. Alors il faut que le Kibushi et le Shimaore se pérennisent. Nous avons ici le plus fort taux de natalité. Alors il faut que cette jeunesse française puissent être armés de leur identité pour apporter leur pierre à la construction de la France. Nous avons choisi la France pour un mariage, mais la France nous a choisi pour un changement. Nos langues ont été délaissées pendant longtemps. Que je sois entendu, je suis un simple maoré, mais je n'ai pas envie que ce délaissement-là continue à faire la perte de mon île. On a posé Mayotte en appât et ça attire tout le monde dans l'océan Indien. Je ne veux pas de ça.
Alors Spéléo Rastami, on vous sent à la fois en colère et à la fois un amoureux de votre île et de la France.
En colère nécessairement, parce que Mayotte est belle. C'est une beauté que j'ai envie d'offrir à la France. En colère parce que ma conception de mon entrée dans la France est une conception d'égalité et surtout une conception de joie que je n'ai pas envie de voir dégradée. On demande un département pour Mayotte et surtout pour les Maorais et si possible à la Mahoraise. Et il faudrait qu'on apprenne aussi de nous, qu'on nous demande comment on va faire pour vivre ensemble, que ça soit beau, qu'on nous écoute, parce qu'ici on a su faire les choses depuis avant. Et on doit nous demander d'orienter un peu les choses à la maoraise. Je sais que la France peut instruire nos enfants comme il faut. Je sais que la France peut, si elle veut, faire en sorte que Mayotte soit encore plus belle. Nous avons besoin d'excellence. Et nous avons besoin de nouvelles orientations pour que l'on puisse faire entendre la voix de Mayotte, la voix de notre culture. Nous sommes des Maorais. Nous devons entrer dans la grande France avec notre identité maoraise pour un petit ajout à la grande diversité culturelle que connaît notre nation, la France.
Les Mahorais savent parfaitement ce que c'est que le bien commun. Il faut qu'ils soient capables de changer d'échelle pour le penser à un niveau national et se penser, eux, dans l'ensemble national. Alors, c'est vrai que l'éloignement n'aide pas. Et c'est pour ça que je pense que le passage en métropole, dans l'expérience des gens, elle est quand même importante. Alors, c'est la rencontre entre deux systèmes de valeurs. En même temps, personne n'est ange ou démon dans cette affaire. Mais il y a les normes, les valeurs morales, et puis il y a aussi le social. Et le social, c'est la réputation des familles. Et la réputation des familles, c'est important. Donc tout ça, c'est compliqué. Je pense que pour les jeunes, c'est un peu... Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, finalement? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? C'est-à-dire qu'ils ont quand même des éducateurs au lycée, par exemple, pour prendre les plus avancés dans la scolarité, qui leur inculquent des références et qui sont en contradiction avec ce qu'on leur inculque à la maison ou à la médersa. Donc c'est ça qui est difficile. Je pense que c'est difficile pour cette génération, oui, de la jeunesse, et ça fait déjà quelques dizaines d'années que c'est difficile pour eux. Mais j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui étaient drôlement armés pour inventer justement de nouvelles manières d'être harmonieuses.
Voyage en terre d'outre-mer, chez les Mahorais de Mayotte.
Ben moi c'est Oumi, je suis de Bandrabois. J'ai 20 ans et je suis mahoraise. Alors moi c'est Mohamed Chaïma, j'habite à Kombani et je suis grande comorienne.
Moi c'est Alou Ibrahim, j'habite à Mashkawalamir, c'est mahorais, malgache.
Alors moi c'est Yasmine Amidoun, j'habite à Dzoumogné, je viens de Comores.
Pourquoi je vous ai demandé de vous présenter, c'est qu'il y a des mahorais, il y a des comoriens, il y a des anjouanais, et il y a des malgaches.
Il y en Afrique.
Exactement, et c'est que en fait, vous êtes tous mahorais et vous construisez tous la société.
C'est là où on vit, c'est là où on vit, chez nous, voilà.
En fait, on échange les cultures à travers nos activités. On est ensemble, elle fait son activité de sa région, du Grand Comore. Moi, je fais la mienne d'Anjouan, par exemple. Donc là, on échange les cultures et on apprend la culture mahoraise, comme nous aussi on peut apprendre la culture grande comorienne à travers les activités de société, à travers les mariages, c'est pas la même chose en fait. Il faut aller vers les gens, il faut s'intégrer dans la société en fait si on veut être accepté. C'est nous qui vont fabriquer Mayotte en fait.
On va passer Ena et en tout cas on va passer.
Et c'est justement l'objectif de l'association CEMEA pour finalement créer le citoyen,
oui,
de demain.
Oui, c'est ça.
Qu'il soit mahorais, comorien, français.
Tout à fait. Et ça fait partie des sujets que nous abordons ici.
Archimède Raouvaille, directeur de l'association.
Quand on trouve un aparté ou quand ils rentrent dans des sujets que les Comoriens ou les Anjouanais ont envahi le territoire, on leur dit non, tout le monde a droit d'être ici, là. Il y a plein de nationalités, ils sont en situation régulière et ils ont le droit de vivre et puis d'apprendre. Et la rencontre de ces cultures, c'est important, ça enrichit. Mais quand il y a rencontre, il y a confrontation, ça va s'effriter à un moment donné, et c'est à ce moment-là qu'il y a apprentissage de l'un et de l'autre dans le développement de cette jeunesse-là. C'est important. Il s'agit vraiment d'apporter des outils à cette jeunesse pour qu'ils puissent eux faire la synthèse eux-mêmes entre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent avec les parents. C'est pour cela que nous pensons qu'il n'y a pas que la maman et le père qui doivent éduquer, mais c'est l'ensemble des adultes qui doivent agir pour une meilleure réussite de ces jeunes-là. Chez ces jeunes-là, quand ils disent ben, « j'attends de la France », le rêve des parents c'était « vous allez travailler dans un bureau, vous allez va à l'école, tu ne seras pas zébu, tu ne seras moins bête, tu seras instruit, et puis tu auras l'argent facile ». C'est ça ce qu'on a laissé dans la tête des enfants. C'est pour cela que certains commencent à réfléchir, que les élus ont voulu faire changer les choses trop vite, ils ont voulu faire ça, alors qu'il y a une mentalité, il y a une culture qui a une grande place dans cette société mahoraise.
Le problème aujourd'hui, c'est peut-être la jeunesse, cette jeunesse pléthorique.
Mlali Kombro, sociologue.
Et il faut en faire quelque chose. Au lieu d'être la poser comme un fardeau, il faut la considérer autrement, comme une chance. Peut-être que c'est notre atout. C'est comme ça qu'il faut l'envisager. Il y a toujours ce discours passionné qu'on a hérité de Mayotte française. C'est une inscription en négatif. Un rejet des Comores d'abord, qui a poussé les Mahorais vers la France en fait. Se battre pendant plus de 50 ans pour un statut, c'est une forme d'abandon à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et pendant cette période, pendant ce qu'ils ont considéré comme une lutte, eh bien, ils ont oublié de s'occuper de tout, même de leurs enfants. Les Maorais eux-mêmes n'ont pas rompu avec une attitude de coloniser. Et quand ils demandent à l'État la justice, quand ils demandent à l'État la solidarité nationale, on voit que ce n'est pas la même revendication qu'on peut avoir ailleurs sur d'autres territoires de la République. On voit que cette revendication est portée par autre chose que l'adhésion à des institutions. On voit que c'est une attitude qui dicte ces revendications. Et du coup, si Mayotte devait rester française, il trouvait donc ce qu'elle cherche en termes de développement humain, culturel, tout ça. Je pense qu'il faudrait premièrement rompre avec cette idéologie de Mayotte française et de prendre le risque de se perdre un peu. Comme ils disent ici, d'engager peut-être un lien de mariage et autre chose en fait. Rompre les liens de type colonial, et ça passe par la formation des élus, la promotion d'un autre individu maorais qui aspire peut-être à plus de responsabilité, à plus d'individualité. Ça fait partie des risques qu'on doit prendre. C'est vrai que c'est en contradiction avec ce que la société nous offre comme valeur, mais en même temps, on ne peut pas se dire vivre cette République et encourager les gens à vivre comme ça. Ça les mettait dans une situation de contradiction avec leur choix, avec le département, avec même la vie d'aujourd'hui. C'est ce courage-là qu'on doit avoir.
Voyage en terre d'outre-mer. Partir ou rester. Sur France Inter.
À 15 000 km de là, la Nouvelle-Calédonie.
Aujourd'hui, on est là. On est des Kanaks. Ce peuple qu'on veut faire lever. On veut que ce peuple soit le peuple représentatif du pays qui est en train de naître.
C'est l'histoire de l'émancipation d'un peuple et d'un processus de décolonisation engagé il y a près de 30 ans et qui pourrait s'achever en 2018 par l'indépendance.
Voyage en terre d'outre-mer, sur France Inter.
Notre âme, c'est la parole, donc tous ces âmes qui sont ici, ben, nos yeux, ils sont dedans.
Balayés par le vent.
Oui, le vent, c'est aussi un esprit, c'est quelqu'un de vivant, quoi. Quand le cyclone qui vient de nous secouer, c'est pour nous réveiller.
Joseph Coromido, député du mouvement indépendantiste Kanak Palika, impressionne par son calme cosmique. Sous cette apparente douceur, avec sa longue barbe blanche et son chapeau de Far West, il est de tous les combats depuis plus de 25 ans. Il croit à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Le peuple kanak a toujours résisté de manière violente, ensuite de manière passive. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au bout de tout ce chemin parcouru par nos ancêtres et nous sommes prêts d'aboutir à la pleine souveraineté. Mais une souveraineté partager avec l'ensemble des communautés qui sont en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, et une souveraineté en discussion avec la France, avec la manière de faire d'ici, de l'Océanie. Et je pense que ce chemin parcouru, il arrive à son terme aujourd'hui et nous avons abouti à ce que nos vieux ils ont voulu. Je pense qu'on est des guerriers de la paix et on arrive à l'indépendance par la voie pacifique et la voie démocratique.
L'enjeu, comme le répètent souvent ironiquement les Kanaks,
Alban Bensa, anthropologue,
c'est que la France réussisse enfin une décolonisation, sans drame. Donc on est dans une phase d'émancipation qui a été en fait déclenchée par les événements tragiques jusqu'à l'affaire de la grotte d'Ouvéa en 1989. Et qui a été ensuite, disons, enclenché par le programme de rééquilibrage, c'était le terme employé par Michel Rocard, pour sortir la Nouvelle-Calédonie de cette espèce d'apartheid dans laquelle elle se trouvait. Jusqu'à cette époque, les Kanaks étaient totalement marginalisés, au fin fond de réserves, sans eau, sans électricité, sans presque assistance médicale, etc. Donc là, il y a eu un énorme progrès de fait. Cette idée que puisqu'on ne pouvait pas avoir une souveraineté partagée tout de suite, on allait établir des souverainetés partielles en divisant la Nouvelle-Calédonie en trois provinces. La province sud où les non-indépendantistes sont majoritaires et puis la province nord et la province des îles où les indépendantistes ont pu justement se rôder aux affaires, prendre leur destin en main et notamment avec l'ouverture d'une usine de retraitement du nickel à côté du massif de Koniambo sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a eu un travail de rééquilibrage important dans l'idée d'une émancipation. À mon avis, il y a des conditions pour qu'on y arrive politiquement parce que d'abord c'est inscrit dans l'accord de Nouméa, il va y avoir un référendum. Et troisièmement, les caisses de l'État français n'étant pas tellement fournies, Bercy en a, je crois, un peu assez de payer pour la Nouvelle-Calédonie, d'autant que la Nouvelle-Calédonie est certainement le seul territoire d'outre-mer à avoir les moyens de son indépendance à cause du nickel.
En effet, 30% des réserves mondiales de nickel se trouvent en Nouvelle-Calédonie. Ce métal du diable est devenu un enjeu politique majeur et la province Nord, une terre d'innovation politique et économique. L'usine de traitement du nickel est désormais aux mains des Kanaks et la province est présidée par les indépendantistes. Koné, la capitale administrative, ressemble aujourd'hui à une ville nouvelle au milieu de la brousse, avec ses supermarchés, ses lotissements, ses zones d'artisanat, son tribunal et bientôt sa prison. Pour son maire, Joseph Goromido, Koné est une ville laboratoire.
Ça veut tout dire, ça veut dire qu'il y a 19 tribus au total, et plus les 3 villages, 22 lieux de vie dans lesquels les gens sont de diverses communautés, ethnies, de religions différentes et qui sont appelés à former demain une citoyenneté nouvelle. Et nous essayons de faire en sorte que cette identité nouvelle, elle émerge à partir de la participation de tous les citoyens, de manière à ce que le citoyen calédonien, il émerge déjà ici. Aussi bien les Kanaks que les Européens, les Indonésiens et toutes les communautés qui sont ici pour faire une nation pluriculturelle. Notre identité, c'est plusieurs personnes en même temps. Moi, je suis du clan Ndui, Guayeta, mais ma mère, elle est du clan Bahi. Donc j'ai en moi l'histoire de mon père, mais j'ai aussi l'histoire de ma mère. Donc cette identité-là, nous voulons qu'elle soit partagée avec les autres, parce que les autres, ils ont leur place dans cette conception du monde. Les autres, ils ont leur place dans la case. Donc l'identité qui doit sortir de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est l'apport de tout le monde pour que le fruit de tout ça, ce soit le citoyen de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire une grande part d'humain. Et donc cette révolution culturelle, c'est déjà de partager. Parce que nous, les vieux, on dit toujours, il faut combler ce fossé. Il faut qu'il n'y ait plus de clivage, de barrière entre les ethnies. Mais on a encore du mal à l'assumer. Mais ce sont nos enfants demain qui pourront le faire concrètement. Et c'est pour ça que nous essayons de développer ce partage. Donc c'est pas pour rien qu'on dit que la Nouvelle-Calédonie est une terre de parole et de partage. Donc c'est dans le passé de notre civilisation. Et nous essayons, nous, Kanaks, de le partager aussi avec les autres communautés pour qu'il y ait une histoire commune à partir d'aujourd'hui.
Voilà, et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde vous observe sur l'art et la manière que vous avez de résoudre les conflits.
Ici, en Océanie, Eh bien, on n'est pas justement dans ce système binaire. Donc, c'est 1 plus 1 égale 2. Mais nous, ça peut être 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1, voilà. On résout la contradiction par une manière de concilier les choses, de faire l'ouverture sur les positions de chacun. Et on essaye de trouver une solution qui satisfasse les uns et les autres.
La recherche du compromis était le principe de base, un compromis entre la continuité de l'univers kanak et puis les exigences du monde actuel, qui fait que l'expérience de la France pour les kanaks n'est pas une expérience purement négative, comme dans un schéma qui était celui des décolonisations catastrophiques, le plan des violences, etc. Là, il y a la recherche de points d'accord entre deux types d'expériences, une expérience gestionnaire à l'européenne et une expérience gestionnaire mais des humains, des hommes, des femmes, des clans, des rapports à la terre, et qui vient plutôt du monde kanak. Et c'est vraiment là que va se jouer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Ça ne pourra fonctionner que comme ça. Il y en a qui sont pour l'accession à la pleine souveraineté, il y en a qui ne sont pas pour. Mais la discussion fait en sorte qu'on cherche des convergences. Et lorsqu'il y a des divergences qui sont là, comment on fait pour trouver une solution? C'est la manière de résoudre la contradiction. Et nous proposons de résoudre le conflit dans ce sens-là.
Bonjour, je salue le gouvernement.
Et après la reconnaissance de la citoyenneté kanak, la mise en place d'un destin commun, avec ses signes identitaires comme la monnaie ou le drapeau, l'État a transféré progressivement ses compétences. Il a instauré une autonomie institutionnelle avec la création d'un gouvernement et d'une assemblée, le Congrès. Composé de 54 membres, il a pour vocation de voter les lois du pays. Philippe Gomez est le président de la commission permanente.
Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est la seule assemblée sur le territoire de la République, avec bien sûr le Parlement de la République, à pouvoir adopter des textes qui ont une valeur législative, c'est-à-dire des textes qui sont soumis à l'avis préalable du Conseil d'État et, le cas échéant, à la censure ultérieure du Conseil constitutionnel. Donc c'est un pouvoir qui nous a été conféré par la Constitution de la Ve République, qui a été traduit dans ce qu'on appelle chez nous l'accord de Nouméa, un accord signé entre indépendantistes, non-indépendantistes, l'État. Donc les seuls sujets qui restent dans les mains de l'État sont les compétences régaliennes, et sur le reste on délibère librement sur tous les sujets fiscaux, économiques, sociaux, droit du travail, droit de l'information, enseignement, etc., etc. Nous sommes dans une extrême autonomie. On est allé très très loin dans l'émancipation, c'est-à-dire dans l'affirmation de notre personnalité particulière au sein de la République. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent. Est-ce qu'il y a une autre partie du territoire de la République où un référendum d'autodétermination a lieu, c'est-à-dire où le peuple de ce territoire peut décider s'il va vers l'indépendance ou pas? Le peuple calédonien, il n'y a pas d'équivalent dans la République. Donc oui, c'est vraiment un espace singulier. C'est ici que le législateur calédonien œuvre.
Et ce lieu est tout un symbole.
Vous voyez au fond du mur derrière vous, vous avez le préambule de l'accord de Nouméa. Sur le mur derrière vous, vous avez les emblèmes des trois provinces de Nouvelle-Calédonie. Dans cet hémicycle, vous avez toutes les formations politiques du pays, vous avez toutes les sensibilités, vous avez toutes les ethnies. Vous avez des Kanaks, des Européens, des Wallisiens, des Futuniens, des Polynésiens, des Asiatiques, et puis des Métis qui appartiennent à plusieurs communautés. Donc oui, c'est cette diversité-là que nous devons faire vivre, en essayant de chaque fois de trouver des points d'équilibre entre les uns et les autres. Alors, c'est sûr qu'en termes de rapidité décisionnelle, c'est peut-être pas le meilleur système. Hein. Ça, c'est clair que pour les temps actuels, où il faut de la productivité, etc. Mais on arrive à bon port.
Nous allons donc examiner le projet de délibération portant modification de l'article R14.1 du Code de la route de Nouvelle-Calédonie concernant l'application de peines complémentaires liées au dépassement de vitesse maximale autorisée. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des intervenants ?
Président ?
Oui, monsieur le secrétaire.
C'est applicable à partir de quand, ce texte ?
Force est de constater aussi que ici, il y a donc les trois provinces, mais il y a aussi tous les partis politiques et que l'ambiance est plutôt conviviale.
Oui, c'est vraiment une spécificité chez nous. Notre mode de gouvernance, il est plutôt océanien. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un consensus sur les textes. Comment on essaye de préserver l'harmonie entre nous, même si on a des divergences politiques ? Et si on n'y arrive pas, à partir de ce moment-là, on va finir par un vote à la majorité. Mais l'idée, quand même, chaque fois, c'est de porter les réformes ensemble, et pas les uns contre les autres. Et vous savez que dans ce congrès, Il y a aujourd'hui 25 élus indépendantistes pour 29 élus non indépendantistes. Donc, vous voyez, on est à peu près moitié-moitié. Nous avons dû adopter deux réformes majeures, le projet éducatif calédonien, faire en sorte que l'école de la République soit aussi une école du pays. Donc comment on adapte les programmes, les modalités de fonctionnement, etc. C'est un projet qui a demandé quasiment 7 ans. 7 ans de travail, 7 ans d'échange, 7 ans de compromis à trouver entre les uns et les autres. Et au bout du compte, il a fini par être adopté à l'unanimité de notre congrès.
Et puis ce congrès est appelé à jouer un rôle de plus en plus important.
Oui, tout à fait, parce que tous les transferts de compétences qui ont été décidés dans le cadre de l'accord de Nouméa ces 20 dernières années, on a transféré le droit de l'enseignement, le droit civil, le droit commercial, la circulation aérienne, la sécurité civile, énormément de compétences. Toutes ces compétences ont été transférées au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, donc des compétences nouvelles qui sont désormais exercées par lui. Donc oui, cette instance a eu de plus en plus d'importance au cours de l'accord de Nouméa et elle en aura de plus en plus, à mon avis, à l'avenir.
Un mode de politique océanienne qui préfigure peut-être ce que sera demain la Nouvelle-Calédonie.
Il faut arriver à ça parce que vous savez, chez nous, c'est tellement divers du fait de l'histoire. Un peuple autochtone vieux de 3000 ans qui habite ici, d'autres peuples d'Europe, d'Asie, d'Océanie qui pendant 150 ans viennent peupler la Nouvelle-Calédonie. Une histoire tumultueuse avec ces différentes cultures, ces différentes vagues de peuplement. On est obligé d'essayer de trouver chaque fois des équilibres. Nous, on ne peut pas construire des murs, il faut qu'on construise des passerelles. Hein. Autrement, on n'y arrivera pas. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On a une échéance importante, comme vous le savez, un référendum en 2018, où on devra voter pour ou contre l'indépendance, qui, bien sûr, un peu mécaniquement tend les choses. Mais la voie pour l'avenir de notre pays, pour conforter le vivre ensemble, elle ne peut passer que par un seul chemin, c'est celui du consensus et du respect de l'autre.
La prochaine commission permanente se tiendra le 16 mai. Donc, merci à vous, au-delà de nos sensibilités politiques. Nous sommes capables de nous rassembler sur l'intérêt général. Nous l'avons souvent prouvé, nous continuerons à le faire.
Maintenant, on est dans un moment de refondation pour aboutir à un accord, à un compromis. Alors, ce compromis, ça peut être quoi ? Je pense que là où le compromis peut-être être obtenu, c'est de créer une citoyenneté calédonienne qui soit distincte de la citoyenneté française. Et à ce moment-là, on marquerait vraiment une sortie de la République sans que nécessairement toutes les compétences régaliennes soient restituées à la Nouvelle-Calédonie, ce qui risque d'être très lourd et très difficile. Donc on aurait un état d'une souveraineté partagée ou semi-souverain, mais ce serait une souveraineté, une citoyenneté originale. Et là, évidemment, la France n'y est pas particulièrement bien préparée, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui ont été trouvées comme ça. Et donc, là, la Calédonie a peut-être quelque chose à inventer. Alors, ce n'est pas l'indépendance, en fait, qui est important, c'est de trouver un mode de fonctionnement politique où chacun s'y retrouve et sans qu'il y ait d'exclusion trop forte. Il faut vraiment trouver des solutions. C'est pour ça que, certes, on vous a entendu, mais maintenant, on vous attend sur le projet de société qu'on pourrait construire ensemble.
Voyage en terre d'outre-mer. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Vivre ensemble. Le destin commun, ces expressions sont sur toutes les lèvres depuis les accords de Nouméa. Certes, beaucoup a été fait pour panser les plaies de la colonisation, rattraper les retards d'infrastructures, rééquilibrer les richesses et le niveau de vie a beaucoup augmenté, mais les inégalités aussi. John Passa est sociologue, il dresse un constat amer.
Quand on voit tout ça avec cette espèce d'effervescence urbaine, avec les constructions en tout genre, on a plein de grues devant nous. Économiquement, les choses s'installent. Et en même temps, quand on tourne la tête et quand on regarde vers le nord, on a le nickel et puis on a les quartiers dits populaires. En tout cas, on a les deux extrêmes. Et ces deux extrêmes-là sont censés cohabiter. Et le sens de la cohabitation, parfois, a du mal à passer dans les esprits et dans les postures des uns et des autres. On assiste de plus en plus à des gens de plus en plus riches, et des sociétés océaniennes et la société kanak qui se paupérisent. Et les kanaks, ils sont aux premières loges. Même si les gens vont parler sans arrêt de vivre ensemble, l'autre est toujours un adversaire. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire avec lui. Et ça reste le grand défi. C'est vrai que 2018, chacun essaye, tant bien que mal, de justifier la nécessité de vivre ensemble. Et en même temps, dans les faits de tous les jours, il y a des indicateurs qui nous démontrent que ben c'est pas gagné du tout. La société calédonienne est toujours aussi segmentée et que les populations ne se rencontrent finalement pas suffisamment ou n'ont pas envie de se rencontrer, tout simplement. La devise de la Calédonie, c'est terre de parole, terre de partage. Il n'y a rien de tout ça qui s'exprime. Et c'est ça qui rend difficile les rapports avec les autres et les rapports à l'intérieur même d'une famille ou d'un clan.
Musique de la cité, où l'enfant et sa mère s'en mettent.
En dépit des efforts, de nouvelles tensions sociales sont apparues, entre Calédoniens et Kanaks, mais aussi parmi les Kanaks, entre ceux attachés à une conception autoritaire de la coutume qui régit la vie en tribu et ceux qui ont une vision plus ouverte et habitent en ville, soit plus de 50% des Kanaks. Aujourd'hui, certains sont en perte de repères. Pourtant, aux portes de Nouméa, sur une ancienne réserve pénitentiaire, Montravel, la première cité mélanésienne construite dans les années 60, crée une nouvelle Kanakie avec ses noms de rues, sa vie en tribu, ses langues et sa culture.
Musique de la cité où l'enfant et sa mère s'en mettent. Esprit coutumier qui n'a que pour refrain déraciné. On ne sait pas encore. Musique du grand chef qui n'a que pour principe argent. Alors on parle de coutume, c'est l'accoutumé. C'est toujours pour parler de la vie dans ces cités mélanésiennes là. Et pourtant, de l'extérieur, on dit attention, vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire manger, attention, vous allez vous faire. Attention. Moi c'est Théo Menango. Et moi je viens de la maison numéro 35, de la rue de Lifou.
Moi c'est l'eau 69, rue du Petit Coulis. Yamel Wayou.
Joseph Yikaoui, mais de la rue de Poté.
Voilà, vous êtes trois des habitants. De cette cité Montravel, à l'origine du groupe, d'un groupe de musique que vous avez créé, le groupe emblématique dans les années 80, Kanéka.
78. C'est l'un des groupes phares de l'époque, qui est
Dimension pays,
voilà.
Là, c'est marqué dans le tract, c'est marqué « Yata gaspille l'énergie des jeunes pour la lutte, forcée et obligée par la force des choses ». Le groupe vulgarise pour une fois, en chanson, un nom à dire, en cette époque-là, un nom à dire, on ne pouvait pas dire Kanak. C'est faux, c'est politique, c'est révolutionnaire, c'est les blancs dehors, quoi. Pour l'époque, en enregistrant en 1985, Frère Kanak. Arrivera le jour de l'unité, arrivera le jour de liberté. Ce jour est un grand jour, faudra le préparer. Musique hors style, aux couleurs océaniques de citoyenneté mélanésienne, hors cité libre, égalitaire et fraternelle. Mais que l'histoire place à présent au cœur de ville, parce qu'on est au cœur de la ville maintenant, hein, comme l'expression vivante de la civilisation Kanak au centre de Nouméa. Et c'est important parce que c'est dans la contradiction avec la ville que ça sort.
Et c'est pourquoi vous intéressez beaucoup les sociologues.
C'est un bon terrain d'étude pour pouvoir connaître les possibilités.
Et puis de vivre en dehors de la tribu, tout en recréant une identité.
Tout à fait. Les gens ils sont arrivés ici, ils ont déjà leur patrimoine de chez eux. Donc ils n'ont fait que transposer ici. Ils ont gardé un des principes kanak qui est que l'autre est porteur de richesses, donc auxquelles il faut aller chercher et partager. Avant de revendiquer leur identité d'origine, ils se disent d'abord, on est d'abord d'ici, de la ville. C'est-à-dire que les gens redéfinissaient le territoire de Nouméa comme une tribu. Sur un même territoire, on est tous ensemble. Aussi enclavé que puisse apparaître Montravel, la pensée des gens qui ont habité là, c'était une pensée d'ouverture. Par contre, les nouveaux quartiers maintenant, ce n'est pas sur des pensées d'ouverture. Finalement, quand on travaille avec des quartiers comme ici, on voit tout de suite la recherche permanente de lien, de faire du lien, qui est un élément fondamental dans la pensée kanak. Les kanaks qui ont habité là, ils ont dit qu'il faut faire le lien entre nous et puis le territoire sur lequel on habite. La musique a été un des éléments marqueurs de l'identité de Montravel, parce que la musique permet de dépasser les frontières, notamment culturelles ou identitaires.
Liberté. Vous voyez le grand frère, là ? Il vit de la musique aujourd'hui. C'est inconcevable dans la culture kanak. C'est des gens qui, par leur expérience de musicien, à l'heure actuelle, ils partagent. La volonté de vouloir partager, de vouloir faire connaître, transmettre.
Je pense que Montravel peut servir de référence. Elle a rendu possible la continuité de l'identité kanak. C'est un carrefour identitaire, c'est un lieu de création. Montravel rend les choses possibles.
Mais on sait que c'est ça, là. Parce que la ville, par elle-même, c'est cette vie qu'on mène, nous, ici, là. C'est la fraternité qu'on a entre nous, les petits frères. Il faut partager avec les autres. Comment cette citoyenneté-là, voilà. C'est justement ça.
Montravel, c'est une réhabilitation, on va dire, de manière structurelle. Et c'est aussi une réhabilitation d'une nouvelle être. Parce qu'on croit, nous, c'est Montravel.
Sur le mot Kanéka, c'est le simple désir d'être ensemble.
De vivre ensemble.
De vivre ensemble.
Ici, on ne s'occupe pas de nous. On est toujours les oubliés. Les routes, elles ont été faites en 2014. La route, elle est restée 35 ans comme ça. Elle était toute cabossée.
Les institutions, personne, même personne. On a fait appel pour essayer de nous aider. Personne n'a voulu nous aider. Personne, il a fallu se débrouiller.
Et là, ce qu'on entend, c'est...
Là, ce qu'on entend, c'est le refroidissement de l'usine de nickel. Là. La mer, là, vous allez là, elle est à 80, entre 80 et 100 degrés. Donc, c'est le refroidissement des fours du nickel.
Et elle rythme votre quotidien.
Après, il lâche les fumées, hein, les fumées sales. Hein.
Et la réhabilitation de l'être, elle passe par la réhabilitation de l'être propre aussi. Hein.
Oui, ben voilà.
Vous vivez quand même dans un endroit totalement pollué.
Totalement pollué.
Vous êtes un peu les abandonnés de la République, non?
De la République, c'est encore loin, mais même du pays, on est abandonné.
Dans toutes les revendications du pays, on va parler des terres spoliées. Des... Et nous, c'est toujours ça. L'indépendance ne se conçoit qu'avec les Kanaks qui vivent dans les chefferies.
Mais quand on regarde la ville de Nouméa, tous les quartiers populaires, ils sont habités en majeure partie par des Kanaks. Mais ces Kanaks-là, comment on les entend dans les discours politiques?
C'est-à-dire qu'on refuse à Moravel d'exister. On lui demande toujours de se relier à un groupe ou à un autre. Et en même temps, la construction des gens d'ici, c'est à la fois Kanak, mais c'est à la fois urbain, c'est à la fois polynésien, c'est à la fois... Ils ont expérimenté et c'est des endroits qui vont voir naître des Kanaks, qui vont essayer de repenser autrement le lien social, qui vont essayer de repenser autrement le réseau de parenté. En même temps, il n'y a pas de reconnaissance.
Aujourd'hui, on est là, on est des Kanaks. Quel statut on nous donne déjà à nous? Quand on parle avec John, on parle de cette nouvelle société, de ce nouveau peuple, ce peuple qu'on veut faire lever. On veut que ce peuple-là soit le peuple représentatif du pays qui est en train de naître.
Arrivera le jour de l'unité. Arrivera le jour de liberté. Ce jour est un grand jour, faudra le préparer. Pourquoi fermer les yeux? Il faudra l'accepter.
Est-ce que le référendum, l'accès à l'indépendance, va changer quelque chose?
Pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Indépendance ou pas indépendance, si le regard ne change pas, il n'y aura pas grand-chose.
Il faudrait faire quoi pour que le regard il change?
Que certains ouvrent les yeux, qu'ils regardent l'autre dans ce qu'il est. Oui, les Kanaks ont changé, les Kanaks ont évolué, mais le prix qu'ils payent est un prix assez lourd. Et c'est ça qui est, en 2017, très difficile à accepter quelque part.
Et en même temps, on se dit quel chemin parcouru. En 1931, les Kanaks présentés comme des bêtes de foire, Carambeu qui voit son grand-père, c'est hier.
Oui, c'est hier. Il y a toujours des éléments qui ne varient pas. Il y a des invariants dans la colonisation. C'est ça qui est difficile. Où l'identité de l'autre est toujours assimilée à quelque chose de négatif. C'est ça qui est difficile à l'heure actuelle. Et c'est vrai, quand on regarde un peu l'histoire du pays, c'est un peu ça. C'est toujours fait de dénigrement, d'humiliation et tout ça. Les gens, ils continuent à voir ça. Ça fait partie de leur identité. Ça fait partie de leur identité familiale, clanique. Mais ça fait partie de leur identité. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible de construire.
Ça fait partie de votre identité?
Oui, c'est aussi la mienne, l'histoire. Et défendre, malgré tout, ce que nous sommes. Et c'est ça qui est le défi qui se dresse. C'est-à-dire que comment je vais arriver à quand même à la fois apaiser, mais dire qu'il faut qu'on soit debout.
Des hommes debout, des résistants, et une autre manière d'être, de vivre et d'agir. C'est le message de ces oubliés de la République que vous avez entendu cet été dans Voyage en terre d'outre-mer sur France Inter. Aujourd'hui, ils se battent pour qu'un statut de peuple autochtone leur soit reconnu et refusent d'être considérés comme des citoyens de seconde classe.
Un jour je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins. Jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins. Jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Moi, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine. C'est
c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, couleur rose à des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux.
Voyage en terre d'outre-mer, un documentaire d'Anne Pastor, réalisé par Clément Baudet et Gaëtan Colli. Au montage, Édouard de Penoat, assisté de Maréva Jacquard et Nicolas Traîneau. Au mixage, David Federman et à la programmation musicale, Djoubaka. Une série à réécouter sur franceinter.fr et à podcaster. Ce programme a reçu le soutien à Mayotte d'Air Austral, de l'Office du Tourisme et d'Evaneos, en Nouvelle-Calédonie, d'Air Calin et de l'Office du Tourisme. Le voyage continue sur France Inter avec l'Espace francophone et Stéphanie Fromentin.